Ce mardi 26 septembre 2023 coïncide avec le lancement mondial de macOS 14 Sonoma, le nouveau système d'exploitation pour nos Mac. Un nouveau système par an, le jour est arrivé. Tout va changer peut-être ou presque sur nos ordis. Fabrice, tu as accompagné le développement de Sonoma parce que tu as testé les versions bêta au fur et à mesure de sa mise au point. J'ai envie de te poser une première question très générale. Est-ce qu'on voit la différence quand on installe Sonoma par rapport aux versions précédentes ?
Alors oui, parce que Apple sait y faire et donc change toujours. Il y a un fond d'écran spécifique pour chaque version, donc forcément.
Par le fond d'écran, je veux dire.
Pour le reste, c'est une bonne question parce que pas forcément. C'est-à-dire que l'interface graphique change pas beaucoup. Il y a toujours les mêmes effets un peu de translucide et tout ça. On remarquera peut-être, on va en parler après, du bouton pour les profils dans Safari, des choses comme ça. Mais sinon, d'un point de vue au premier abord, non, je pense pas qu'on remarque grand-chose. Non, 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 pas vraiment.
Ouais. Gilles, tu as été autant acteur que Fabrice ou plus spectateur des dernières semaines?
Non, pas du tout, puisque pour deux raisons, je ne prends pas les bêtas sur les bons conseils de notre ami Élie, parce que j'ai pas de machine à part pour pouvoir les installer. Et dans le cas particulier de Sonoma, mon MacBook Pro est de 2017. C'était un produit reconditionné que j'ai pris en 2018. Et du coup, là, je me retrouve un peu le bec dans l'eau avec un gap jusqu'à ce que les MacBook Pro M3 sorte et que je recommence avec un nouveau setup.
Alors, ça pose tout de suite la question de la compatibilité de ce nouveau macOS 14. Fabrice, est-ce que tu peux nous éclairer sur les machines compatibles? À partir de quand est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, d'en profiter?
En gros, c'est à partir des machines de 2018. Il y a une exception, c'est l'iMac Pro de 2017. Qui est capable de recevoir Sonoma, mais sinon c'est les iMac de 2019 ou plus récents, les MacBook Air de 2018 ou plus récents, MacBook Pro 2018, Mac Pro tout court 2019, Mac Studio tous les modèles, mais c'est une toute nouvelle gamme, et Mac Mini aussi 2018. Donc c'est peut-être une des choses qu'on peut remarquer effectivement, c'est que la compatibilité de ce nouveau système remonte peut-être un petit peu moins en arrière que les versions précédentes.
5 ans,
c'est-à-dire
c'est
5 ans, c'est pas mal, c'est pas mal, mais bon, il y a des machines. Alors moi j'ai hâte de tester, je vais voir si j'arrive à installer Sonoma sur un MacBook Pro de 2015. Avec le fameux OpenCore Legacy Project qui est un patcher qui permet de tourner autour des incompatibilités. Ça, j'ai pas encore pu tester, c'est toute la question de savoir maintenant que toute la gamme qui est au catalogue d'Apple des Mac est passée aux puces Apple Silicon, puces maison, jusqu'à quand Apple va faire l'effort de faire des systèmes compatibles avec les processeurs Intel. Voilà. Donc,
parce que quand même, là, du coup, le système est compatible avec les deux familles de processeurs. Mm-hmm. Ils auraient pu aller plus loin. Je pense à tous les MacBook Pro Touch Bar de 2017, alors qu'ils sont passés vintage il y a quelques semaines, on en a parlé. Mm-hmm. Ils sont exclus de la liste. Est-ce qu'Apple n'aurait pas pu faire un effort pour inclure des systèmes plus anciens, puisque finalement, il y a des machines Intel dans l'eau?
Oui, je pense qu'ils auraient tout à fait pu faire l'effort. Enfin, le fait est qu'au fur et à mesure des années, donc grâce à cette OpenCore Legacy Patcher, on peut installer des versions de macOS sur des anciennes machines. Donc c'est possible, ça tourne. C'est pas toujours très rapide, mais ça, on peut s'y attendre. Je pense que. Alors, il y a plusieurs choses à considérer. C'est-à-dire que l'effort est possible, mais il est donc certain aussi. C'est-à-dire que c'est pas facile, forcément, même pour une boîte comme Apple, de faire tourner tourner des systèmes sur d'anciennes machines. Ça demande des ressources. Il faut aussi en avoir l'envie. Je pense que c'est assez clair que maintenant, donc toutes les machines sont disponibles en processeur M1 ou M2 et toute la catégorie, toute la panoplie. Je pense qu'Apple a très envie de tourner la page des processeurs Intel et qu'il est en train de le faire. Je pense qu'ils aimeraient bien même le faire plus vite, hein, mais ils ont un peu de mal. D'abord, la transition a duré 3 ans au lieu de des deux annoncés et prévus. Donc, ils peuvent pas non plus rendre macOS incompatible avec les processeurs Intel tout de suite. Ce serait vraiment un peu rapide. Moi, j'ai toujours une pièce sur le fait que je ne suis pas sûr que macOS 15, donc le prochain, soit compatible avec les processeurs Intel. Hein. Je me demande toujours quoi, s'ils vont faire cet effort-là.
Ouais, l'exemple de Gilles est intéressant parce que typiquement, Gilles, il aimerait mettre à jour. Il est coincé avec une machine qui n'est pas dans la liste des compatibilités. Et pour autant, il attend les Mac M3 pour refaire un investissement sur du Mac. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens dans le même cas que Gilles?
Il y en a forcément un certain nombre parce que depuis le temps qu'on en parle et qu'on parle du fait que les Mac ont une belle durée de vie, ce qui est donc le cas. Le Mac de Gilles est un peu ancien, mais il tourne toujours, donc on peut pas le mettre à jour, mais il tourne toujours. Ça milite justement pour des mises à jour de système qui soient plus sur 7 ou 8 ou 9 ans que 5 ans. Je pense qu'on est en plein dans un effet ciseau pour Apple, en fait. C'est que avec la transition des processeurs, c'est vraiment compliqué. Ouais. Je suppose qu'un Mac M1 acheté en 2020, il aura le droit à des mises à jour jusqu'en 2027, plutôt que 2025. Et c'est ça qui change. Là, on est dans ce moment un peu spécial de l'histoire des machines d'Apple, en fait. Je pense que c'est
Gilles, je vois...
surtout ça que ça veut dire.
Ouais. Gilles, je vois que tu veux reprendre la parole.
Oui, j'aurais pu faire le saut d'entrée, mais j'ai préféré attendre. On en a discuté hein, déjà au moment de ce questionnement sur l'arrivée de la puce M3. J'aurais pu faire d'ores et déjà le saut Intel Apple Silicon avec le M2, mais avec le passage de la puce M3 et son gain de performance, tant en termes de puissance, même si elle est limitée, mais surtout en termes d'autonomie, j'ai préféré attendre que la puce M3 soit sur le marché, même si on dit qu'il faut pas se jeter à l'eau immédiatement. Mais là, Apple fait avec sa deadline là de 5 ans pousse aussi au renouvellement, quoi qu'on en dise.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, alors, pour te faire un peu bisquer pour le jour où tu pourras en profiter, on va entrer dans le vif du sujet, Fabrice, en prenant les unes après les autres, les nouveautés apportées par donc macOS 14 Sonoma, disponible donc gratuitement si votre Mac est compatible depuis mardi 26. On commence par une des nouveautés dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'elle est commune à tous les OS, c'est ces fameux profils qui apparaissent dans Safari.
Oui, alors c'est vrai qu'on peut rappeler qu'on a évoqué beaucoup de ces nouveautés dans l'épisode de la semaine dernière, parce qu'il y a c'est très important de souligner que les OS chez Apple depuis plusieurs années sont vraiment liés les uns aux autres. C'est pour ça, par exemple, que c'est plutôt une bonne nouvelle que Sonoma soit disponible si vite après iOS 17 et iPadOS 17. L'année dernière, c'était plus d'un mois après, et il y avait donc des Mac qui étaient en retard parce que Ventura n'était pas sorti pour être compatible avec certaines nouvelles fonctions. C'était un peu dommage. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et parmi ces nouveautés, il y a donc effectivement les profils dans Safari qui sont bien pratiques. Pour rappel, ça permet de créer des zones étanches les unes aux autres, toujours en utilisant le même navigateur. Mais on peut avoir un profil pour ses navigations perso, un profil pour ses navigations pro, etc. Et étanche parce qu'on peut être connecté à un compte Gmail d'un côté et à un autre compte Gmail de l'autre. Ça ne se mélange pas et c'est bien pratique. Donc pour moi, je m'en sers pour des raisons pro et perso et pour me connecter à tout un tas de trucs de mes clients. Mais aussi, quand on veut, si on veut isoler, par exemple, ses comptes bancaires du reste pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, alors on se fait un profil et on se connecte qu'avec ce profil à son compte bancaire ou à Facebook, si on pense que Facebook est un petit peu trop curieux des navigations qu'on fait, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très bien.
Ça
Ce qui est
étanchéifie la vie privée et l'utilisation pro de son Mac, par exemple.
voilà, c'est vraiment comme si on utilisait deux navigateurs différents. Si on ouvre une page dans un navigateur et puis une autre page dans un autre, les deux ne se parlent pas et donc ne sont pas au courant l'une de l'autre. C'est vraiment important pour les histoires de cookies, notamment intersites, même s'ils sont de plus en plus bloqués, des choses comme ça. Mais l'intérêt d'avoir ça dans Safari, c'est qu'on peut tout de même choisir, et on choisit au moment de la création du profil, si on souhaite aussi partager les favoris qu'on a et ou même les extensions. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu encore dans les autres navigateurs qui ont cette fonction de profil. C'est que quand on se crée un profil dans Brave ou dans Chrome, le profil, il est vide. Donc c'est très bien, c'est étanche, mais il faut aussi réinstaller les extensions qu'on utilise, se refaire un catalogue de favoris par exemple. Et là c'est on peut les partager si on veut. Et ça, c'est aussi très pratique parce que ça donne le choix. Et ça, c'est quand même c'est étonnant. C'est Apple qui donne le plus de choix que les autres. C'est pas toujours le cas quand même. Donc
Et
ça,
donc
c'est vraiment bien.
on pouvait déjà profiter de cette nouveauté dans iOS 17 depuis une semaine. Maintenant, on peut aussi dans macOS. Et évidemment, si on crée un profil sur l'un de ces appareils, on le retrouve sur l'autre. C'est ça l'idée.
C'est l'autre intérêt aussi d'utiliser Safari, c'est que ça se synchronise via son compte iCloud. C'est donc vraiment vraiment pratique. Après, ça demande des fois un petit peu de jonglage, c'est-à-dire que quand on est sur Mac, il y a un bouton avec le nom et même la couleur, si on choisit une couleur pour son profil, qui s'affiche en haut à gauche de Safari, juste à côté de la flèche pour la page précédente. Et ça déroule un petit menu et on peut choisir d'ouvrir une nouvelle page, par exemple, dans un autre des profils qu'on a. Ça, c'est très bien. Sur iPhone, c'est un petit peu moins pratique parce que il faut aller dans Safari. Je le refais en direct parce qu'évidemment, je me souviens plus. Il y a les deux petits carrés en bas à droite pour choisir les onglets. Et puis
Attends,
ensuite, il y
j'y
a
vais aussi.
une petite silhouette. Et il faut aller. Il faut faire ça, ça. On tape sur la silhouette, ça fait monter un petit volet. Et ensuite, en bas de ce volet, il y a les profils qu'il faut ensuite encore dérouler pour choisir. Voilà. Donc, c'est un petit peu moins pratique sur iPhone, peut-être. Mais ça a l'avantage d'être présent quand même. Et ce sera forcément un petit peu refait, un petit peu amélioré dans la version suivante, j'imagine. C'est vraiment trop pratique pour qu'ils abandonnent ça.
On continue avec ces nouveautés donc qu'on retrouve aussi dans Sonoma. Elles concernent donc une page web qu'on peut retrouver différemment dans le doc.
On peut transformer un site web comme en appli avec sa propre icône qui va se retrouver dans le dock et aussi donc dans le Launchpad qui, rappelle, existe toujours sur Mac. Hein, c'est cette présentation sous forme d'icône qui ressemble à un écran d'accueil d'iPad. On a dans le dock une icône un petit peu multicolore avec des points, enfin des petits carrés. Et si on clique là-dessus, on va avoir toutes les icônes des applications installées sur son Mac. Et donc, si on transforme un site web en application, alors on va retrouver cette icône à cet endroit-là aussi. C'est en gros une extension des profils dont on vient de parler, parce que du coup, ça crée un site web indépendant de Safari. Donc, c'est comme un profil caché, en fait. Je m'explique. Si on est connecté à son compte Twitter dans Safari, dans un de ses profils Safari, on va créer. Donc là, c'est via le bouton de partage dans l'application, dans le navigateur Safari, le carré avec la flèche qui part vers le haut. Et là, on a une nouvelle option qui s'appelle Ajouter au dock. et on va, ça va faire une petite fenêtre intermédiaire. On pourra donner un nom si ce n'est pas déjà trouvé, et puis on valide et on a son icône. Mais du coup, si on fait ça avec Twitter par exemple, l'icône, quand on clique sur l'icône qui se retrouve dans le doc, alors on n'est pas connecté à Twitter parce que c'est indépendant. On se reconnecte à Twitter et là on va avoir une appli comme une application, parce que du coup l'interface de Safari disparaît au profit juste de la page web qu'on vient de transformer en application.
Ah d'accord.
Et
ça diffère de la page web qu'on envoie dans le doc simplement comme on faisait avant.
Exactement, parce que du coup on n'a plus accès à ses favoris, etc. Ce n'est plus une page de Safari, c'est vraiment juste la page web de ce site-là sans tout le reste de Safari.
Ouais.
Alors, et avec un petit truc en plus qui est rigolo, c'est que pour les sites de réseaux sociaux par exemple comme ça, ça peut être pratique, on peut réduire la largeur d'une fenêtre d'une application créée comme ça un peu plus qu'une fenêtre de Safari. Donc on peut faire en sorte que ça prenne un peu moins de place pour avoir des colonnes, par exemple, pour suivre un fil d'actualité. C'est aussi très pratique.
Gilles, je te propose un truc. Comme tu n'as pas encore pu tester Sonoma, donne-nous ta réaction, même en quelques secondes, à la fin de chacune des nouveautés pour savoir si elles t'intéressent ou pas. Là, entre les profils et cette possibilité de créer une icône de page web dans le doc, ça te semble pertinent?
La web... Oui, très pertinent, même si ça va vite s'accumuler, mais quand tu fais beaucoup de recherches, que tu diffères l'exploitation de tes recherches, tu as besoin de faire plusieurs, de compiler plusieurs sources et essayer d'en faire quelque chose, mettons, plus tard, c'est extrêmement utile. Alors, il y a déjà la possibilité de le faire, mettre des choses en réserve dans Safari depuis longtemps, mais le transformer en web app, je trouve ça absolument génial. Et pareil pour les onglets, c'est typiquement Apple, dans la mesure où ils ont vu ce que faisaient les autres, les manques de ce qu'ils pouvaient proposer, et ils vont réfléchir aux usages et proposer le truc qui fait waouh, c'est ça que je voulais.
Fabrice, Gilles parle de web app. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est plus l'idée du profil comme un profil caché qui serait juste réservé à une page web?
C'est les deux, mon capitaine, parce que justement, ça fait. Il y a un format d'application web qui s'appelle les PWA. Progressive Web Apps. La compatibilité de Safari avec le PWA, et j'ai un doute. C'est pas exactement ça, et c'est pas forcément un standard encore utilisé par tout le monde. Pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles, pour être bien clair, il faudrait aussi rappeler que les profils, c'est nouveau dans Sonoma, et aussi dans une mise à jour de Safari pour Ventura. N'oublions pas de dire qu'on peut aussi avoir cette fonction-là dans Ventura avec une mise à jour de Safari. Mais c'est à ne pas confondre avec les groupes d'onglets qui étaient apparus avec Ventura et iOS 16, justement. Et les groupes d'onglets, c'est à l'intérieur de sa fenêtre Safari. On peut avoir, on se crée des groupes d'onglets qui sont même partageables avec d'autres personnes ayant un compte iCloud, ce qui était aussi, comme disait Gilles, très pratique quand on fait des recherches justement sur un thème, que ce soit pour les prochaines vacances ou parce qu'on cherche de la déco pour sa maison, on se fait un groupe d'onglets qu'on peut partager avec tous les membres de sa famille et chacun peut les consulter et en ajouter au groupe. C'est pas tout à fait la même chose que les profils, et c'est là où ça complexifie peut-être un petit peu l'usage de Safari, parce que quand on commence à faire des groupes d'onglets à l'intérieur de plusieurs profils, on peut s'y perdre. Voilà.
Ok, bon, je pense qu'on a une première vue assez claire de cette nouveauté. Troisième nouveauté donc dans Sonoma et notamment dans Safari, le fameux nettoyage des URL. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit?
Alors, rappelons que quand on va sur des sites marchands, on peut faire des recherches pour trouver un objet, par exemple, et puis quand on a trouvé la page de l'objet, on peut partager cette page Et on s'aperçoit quand on regarde l'URL, donc l'adresse complète de la page, qu'il y a donc le nom du site marchand, slash le nom de l'objet, et puis des fois slash UID égale 1234W712, point d'interrogation, blablabla, et donc tout un code derrière qui est en fait un code qui est très qui met, on va dire, met un peu à mal l'anonymat de la visite. Et donc ça veut dire que quand on partage la page, la personne avec qui on partage, qui va cliquer sur ce lien, va informer le site marchand que c'est vous qui avez partagé cette page avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est encore une petite information partagée avec, avec nos amis commerçants du web. Donc ouais. Là, Safari fait en sorte d'essayer de nettoyer ces pages-là en ne gardant que l'information utile. Je n'ai pas encore suffisamment testé pour savoir ce que ça donne véritablement. Parce qu'il y avait une question que Gilles, me semble-t-il, avait soulevée quand on en avait parlé pendant la présentation de Sonoma. C'est qu'il y a aussi des sites web qui utilisent, par exemple avec Amazon, des sites d'affiliation. Des adresses d'affiliation, pardon. Donc, on est affilié, on fait un lien vers un objet parce qu'on en parle dans un article. Et puis, si on clique sur le lien, à ce moment-là, le site reçoit une petite partie de la vente. C'est une façon de
Et ils ont besoin de... Ils ont besoin de ce revenu pour vivre, souvent, les sites.
Et voilà, donc il ne faudrait pas que Safari enlève ce lien d'affiliation, ce qui serait dommageable. Je n'ai pas suffisamment testé pour ça. Je suppose qu'ils y ont pensé quand même. Et ça fait partie de toutes... ça fait plusieurs versions que Safari fait beaucoup d'efforts pour essayer d'anonymiser nos traces en ligne. Pour aussi on rappelle, Safari, il le fait de mieux en mieux à chaque nouvelle version. Safari ment. Au site web. C'est-à-dire que beaucoup de sites web demandent des informations sur la machine qui les visite. Donc, par exemple, quel est le type de machine, la version de système, les polices de caractère installées, ceci, cela. Et depuis plusieurs versions, Safari répond une chose différente à chaque fois qu'on lui demande. Donc c'est rigolo et en même temps c'est malheureux parce qu'on en est arrivé là, c'est-à-dire sites font tellement le forcing pour essayer de savoir qui nous sommes que c'est dommage. Et donc Safari est très fort là-dedans et il continue.
Gilles, le nettoyage de ces URL, c'est très bon pour nous les consommateurs, mais ça peut être pénalisant pour certains sites web qui en ont besoin.
Oui, très souvent quand il y a de la gratuité, il faut qu'il y ait une rémunération pour payer, alors éventuellement le ou les salariés, mais tout simplement les serveurs. Ouais. Et donc là, les liens d'affiliation étaient rapidement devenus, de mémoire, c'est la deuxième moitié de la première décennie de 2000, des 2006, 2007, même 2005. C'était la principale source de revenus. Les bannières et les clics n'étaient pas du tout rémunérateurs. Et on en est venu ensuite à ce que j'aborde, c'est la publicité dite qualifiée avec le véritable fichage du visiteur. Mmh. C'est comme si on mettait un beacon à chaque fois que tu visites à chaque fois que tu visites un site, on te met un truc différent, tu finis par avoir une collection, c'est pas possible, sans compter que c'est un mensonge pour les boîtes qui achètent ces données là c'est bon, pas parce que tu as c'est une vasque escroquerie et
oui, en tout cas, le mot nettoyage est bien trouvé. C'est vraiment du nettoyage.
Ah oui, tout à fait. c'est le mot juste serait décontamination, à mon sens.
C'est ça. c'est ça. Une carchérisation des URL, c'est ça.
Exactement.
Bon, Fabrice, on passe à une autre nouveauté de Sonoma. Elle concerne les mots de passe et donc elle est aussi disponible dans les autres OS sortis la semaine dernière.
Oui, alors c'est l'ajout de nouvelles fonctions au trousseau qui existe dans macOS depuis très longtemps, c'est-à-dire donc la sauvegarde des mots de passe quand on crée un compte en ligne ou quand on se connecte pour la première fois depuis Safari à un compte en ligne qu'on a déjà. Safari va proposer d'enregistrer le mot de passe. à la création d'un compte, va même proposer la création d'un mot de passe complexe. Donc tout ça, c'est très bien. Ce qui manquait, c'était la fonction de partage de mots de passe qui est maintenant intégrée. Donc on peut créer des groupes dans l'interface de gestion de mots de passe, soit depuis Safari, soit depuis directement les réglages système du Mac, pour se faire des groupes pour les membres de la famille et aussi, ou pourquoi pas, au sein d'une entreprise pour ne partager qu'un certain nombre des mots de passe. Ça, c'est vraiment très bien et c'est aussi en lien avec le développement petit à petit des passkeys, donc des clés de sécurité qui permettent de se connecter en ligne sans mettre de mots de passe, mais à l'aide de clés de cryptées qui seront donc forcément gérées par un gestionnaire de mots de passe. Et c'était un des problèmes qu'on se posait, c'était qu'est-ce qu'on va faire de ces clés? Parce qu'on ne peut pas envoyer un mot de passe par texto à quelqu'un, puisqu'il n'y en a pas.
Bah oui, mais donc, du coup, ça va être géré, passkeys, le partage de passkeys, du coup?
Exactement, oui, c'est même, finalement, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se créer une passkey et puis ensuite la mettre dans un groupe partagé pour qu'on puisse être plusieurs à l'utiliser. Oui, tout à fait.
Bon, tu as vu comme moi que passkeys était arrivé dans OnePassword ces derniers jours?
Oui, alors
c'est pas un hasard, j'imagine.
Non, mais c'est pas un hasard. Mais il l'avait annoncé. Hein, ouais. C'est vrai que moi je m'étais posé la question de l'avenir de logiciels comme OnePassword face à ça, puisque c'est ce qui me manquait, c'est le partage et la création de coffres-forts spécifiques de mots de passe, c'est ce qui était pour moi indispensable dans OnePassword. Ça l'est moins si c'est dans Safari. Gilles, dans une quotidienne, a fait la remarque en disant, bah voilà, ça sert à ça, toujours OnePassword, puisqu'ils intègrent les passkeys. Cela dit, ce que je voulais dire exactement, c'est que comme d'habitude, finalement, Apple fait toujours ça, comme pour les applications notes ou rappels, les fonctions augmentent petit à petit. Et donc, pour les concurrents, ceux qui font des applications spécifiques, ça devient de plus en plus difficile de justifier leur existence auprès du grand public. Après, il y a des fonctions professionnelles qui restent importantes. La première, pour OnePassword, c'est le fait qu'elle est totalement multiplateforme et qu'elle fonctionne sur iOS, iPadOS, macOS, Windows et Android, ce qui est quand même pas le cas du trousseau d'Apple. Voilà. Mais non, bah les passkeys, oui, il faut pouvoir les stocker quelque part. Donc le gestionnaire de mots de passe du Mac et iPhone, iPad, c'est le faire. OnePassword aussi, Bitwarden qui est un autre gestionnaire de mots de passe aussi. On va éviter maintenant de parler de LastPass qui, à mon avis, va pas survivre. On avait évoqué, pour faire une petite parenthèse, ils avaient été piratés il y a un an et ça commence à vraiment se voir. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il y a des gens dont les coffres-forts de mots de passe ont été ouverts. Et il y a des gens qui avaient stocké leur mot de passe pour accéder à leur portefeuille Bitcoin. Et il y a des gens qui se sont fait voler des millions de dollars en Bitcoin parce qu'ils avaient confié ça à LastPass qui s'est fait pirater. Voilà.
Bon, on va tourner cette page douloureuse, mais on va rester sur les mots de passe avec un point hyper intéressant et important si on utilise un autre navigateur que Safari.
Exactement, parce que justement, c'était donc ce que j'évoquais. OnePassword, par exemple, est disponible sur toutes les plateformes, mais même sur le Mac, si on stockait ses mots de passe dans le trousseau et donc dans Safari, si ensuite on voulait utiliser Chrome, Brave, Edge ou Firefox, on n'avait pas un accès facile, en tout cas pas d'utilisation automatique de ces mots de passe, de remplissage automatique de mots de passe, c'est le mot que je cherchais, au sein de Firefox par exemple. Donc maintenant, il existe des extensions pour Chrome notamment, qui permettent d'accéder au trousseau de mots de passe du Mac, depuis Chrome, depuis Edge, depuis Brave. C'est un pas justement pour rendre la gestion de mots de passe du Mac plus universelle, sachant que j'évoquais aussi Windows. Alors, sur Windows, c'est possible aussi en partie parce qu'il y a, rappelons ça, un utilitaire qui s'appelle iCloud pour Windows qu'on installe depuis le Microsoft Store quand on est sur Windows et qui ensuite va installer un petit module supplémentaire qui permettra de récupérer ses photos via la photothèque iCloud, ses favoris et aussi ses mots de passe en fait depuis une petite année qu'on pouvait donc déjà C'était rigolo quand même. On pouvait synchroniser ses mots de passe Apple iCloud avec Edge sur Windows, mais on ne pouvait pas le faire avec Edge sur Mac. Voilà. Alors, c'est maintenant réparé. On peut le faire avec Edge ou tous les navigateurs basés sur Chromium, sur Mac aussi. C'est vraiment, je pense qu'on est vraiment. Ce serait quand même incroyable que dans macOS 15, la prochaine version, il n'y ait pas une application spécifique signée Apple pour gérer ses mots de passe. On est vraiment sur le chemin de ça.
Ouais, Gilles, tu es du même avis que Fabrice sur. La probabilité d'une appli dédiée au mot de passe bientôt?
Oui, il monte petit à petit, et puis ça ferait tellement plaisir à Thierry Breton de d'ouvrir les choses sur Apple.
On en reparle dans le bonus, hein, justement.
Je suis sûr que Tim Cook va faire quelque chose pour lui.
Voilà, patreon.com/iWeek. Pour
quel
ce
teaser, ce Gilles.
Sur la visite de Tim Cook à Bruxelles, effectivement. On passe au widget interactif, Fabrice.
Alors, on avait évoqué ça donc la semaine dernière aussi pour iOS et iPadOS. On peut mettre des widgets depuis iOS 16 sur l'écran d'accueil de l'iPhone notamment. Maintenant, ils sont interactifs, ce qui est quand même beaucoup mieux, parce qu'avant, les widgets, c'était des grosses icônes, finalement, qui pouvaient afficher des informations supplémentaires, mais quand on tapait dessus, on allait directement dans l'application à laquelle ils étaient rattachés. Là, maintenant, on peut avoir un bouton pour faire lecture-pause sur un podcast ou la musique. On peut faire ou avoir un autre bouton pour quand on a une liste de rappels pour marquer un to-do, une chose à faire qu'on a donc réalisée, donc on peut la marquer comme réaliser des choses comme ça directement depuis le widget sans avoir à ouvrir l'application. On peut maintenant avoir des widgets composés. Alors ça, c'est bizarre pour moi, directement sur le bureau du Mac. Je suis bien curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que voilà, donc on peut maintenant faire un clic droit sur le bureau du Mac. Il y a une option qui s'appelle modifier les widgets, et il y a un petit volet qui arrive du bas de l'écran, et on peut ajouter, donc faire glisser directement sur le bureau du Mac des widgets qui vont être interactifs aussi pour la météo, pour ce que je viens de décrire, les podcasts, la musique et tout ça. En plus des widgets qu'on peut ajouter déjà, qu'on pouvait déjà ajouter sans qu'ils soient interactifs, dans le volet de notification qui arrive qui glisse depuis le bord droit de l'écran quand on clique dans l'horloge, dans la barre de menu du Mac. Ça, c'était déjà un endroit où on pouvait mettre des widgets, et c'est ce que moi je préfère toujours. Donc ça, c'est, pour moi, c'est un peu bizarre, mais rappelons quand même que les widgets interactifs, c'est quand même vraiment pratique où qu'ils soient. Moi, je m'en sers aussi pour mettre des liens directs vers des objets connectés. Comme ça, je peux allumer et éteindre des lumières directement. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié d'allumer des lumières que je m'empresse d'allumer. Et voilà.
Ces widgets interactifs, Gilles, est-ce que tu y vois un intérêt?
Oui, c'est un truc pour les boomers, c'est le retour des raccourcis, des alias, mais non, je plaisante. Mais c'est effectivement un truc pour rappeler aux bordéliques de mon espèce qui ont tout un tas de documents qui traînent sur le bureau. C'est terrible qu'il faut ranger le bureau s'ils veulent avoir une vision à peu près correcte de ce qui se passe et avoir des objets utiles supplémentaires. Ça va peut-être pas aider non plus les nouveaux entrants avec entre la barre de doc plus les widgets interactifs. Ça va être difficile de prendre un peu la mesure de ce qui se passe. Est-ce que c'est la véritable application? Est-ce que c'est juste un petit raccourci sur un certain nombre de fonctions clés et utiles? Les formateurs comme François ou Audrey vont avoir de belles heures devant eux pour trouver les trucs de mémorisation.
Ben oui, on fait une bise à Audrey Coulot, à qui on doit le logo d'iWeek, la semaine Apple d'ailleurs.
Peut-être juste, je vais rebondir sur un petit truc,
Ouais.
parce que ça me fait penser, quand on a un bureau qui est encombré, alors c'est pas mon cas, mais parce que je lutte, docteur, je lutte, je suis comme tout le monde, je pose des trucs sur mon bureau et j'essaye de le ranger après. Mais c'est un des trucs qui m'a le plus perturbé avec les widgets, en fait, c'est que quand on place un widget et qu'on essaye de le placer sur des icônes qui seraient déjà présentes sur le bureau, ben les icônes se mettent à bouger pour laisser la place exactement comme les icônes sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Et c'est, j'avoue que voir ça sur l'écran de mon Mac, ça m'a beaucoup perturbé. Voilà. Donc une raison de plus pour moi de ne pas mettre de widget sur mon bureau, c'est moi j'y vois pas d'intérêt. Mais ça, c'est un détail.
Bon, au début de cette séquence, tu nous parlais de l'image de l'écran du fond d'écran hein, qui est propre à chaque nouvelle version majeure de l'OS. On dit un mot de l'écran de veille et des fonds d'écran animés?
Oui, avec Sonoma arrivent des fonds d'écran et des écrans de veille, notamment quand on est, on rallume son Mac, par exemple, qui s'est mis en veille, et puis on a il faut mettre son mot de passe avec le qui correspond au compte auquel on accède. Déjà, première remarque, la fenêtre de connexion à son compte est plutôt jolie, puis le nom de son compte, maintenant tout ça est en bas au milieu de l'écran, ça prend pas juste en plein milieu, et du coup c'est bien parce que ça laisse la place au fond d'écran qu'on a choisi et qui peut être donc animé, et c'est des fonds d'écran animés qui sont très proches, si ce n'est les mêmes, que les écrans de veille de l'Apple TV. Avec des vues en drone, des choses comme
Ah
ça.
oui.
Et là où Apple est très fort dans les détails, ça c'est quand même assez génial. C'est-à-dire que on peut avoir cet écran de veille donc qui bouge un peu parce que du coup on est sur un survol par exemple d'un joli lagon, des choses comme ça. Et du coup, on n'a quand même pas envie d'avoir ça qui bouge sur le bureau quand on est en train de travailler. On n'a pas forcément envie d'avoir une vidéo derrière ces icônes. Bah c'est pas grave, le fond d'écran du bureau va, quand on réveille son Mac et qu'on met son mot de passe, en une ou deux secondes, l'animation s'arrête, ralentit et s'arrête, et l'image fixe devient le fond d'écran de son Mac sur le bureau. Ça, c'est de toute beauté, en fait. C'est le genre de détails qui sont rien et qui font sourire à chaque fois qu'on allume son Mac quand on utilise
Ouais,
ça. C'est
c'est
ça
terrible.
qui est... Ah,
C'est
ouais.
terrible parce que ça va forcément faire envie à Gilles.
Oui, c'est le truc. Je reste un grand enfant. Chaque fois que j'adresse la parole à Siri sur les HomePod mini, le son, la musique, s'assourdit comme si on était derrière les portes capitonnées d'une salle de spectacle. Et je trouve ça absolument génial, quoi. C'est Apple, et vraiment, c'est pour ça qu'on aime Apple, quoi. Un petit truc ridicule comme ça, c'est lissé, en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de. C'est sans couture, comme dit leur expression, en fait.
Bon, Apple a sans doute tiré les enseignements du confinement et de l'explosion des visioconférences, puisque maintenant on peut parler d'une webcam survitaminée dans Sonoma Fabrice.
Oui, et en plus, c'est fait intelligemment, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles fonctions liées à l'utilisation de la webcam pendant la visio, mais qui ne sont pas limitées à FaceTime. C'est-à-dire que quand on utilise sa webcam, que ce soit la webcam intégrée au Mac ou une webcam qu'on branche sur un port USB, en fait, le système va capturer ça pour créer une webcam virtuelle, que le système va ensuite mettre à disposition des applications de visio qu'on utilise, que ce soit FaceTime, Zoom, Webex, Teams. Et du coup, quand on utilise la webcam en question, on a un petit menu une caméra, un petit bouton vert avec une caméra blanche dedans qui ressemble à l'icône de FaceTime, en fait, qui apparaît dans la barre de menu en haut de son Mac, et on a accès à un certain nombre d'options supplémentaires. Alors, on avait parlé de ça la semaine dernière, c'était les gigotis d'Eli. Donc, ce sont les réactions gestuelles. Hein, quand on met un pouce en l'air, du coup, il y a l'icône d'un pouce qui est en l'air qui apparaît.
Là, ça ne le fait pas, là. Ben non, ça
alors
pas
là, faire. On ne peut pas le faire. J'ai cité tout à l'heure ce qui était compatible, donc Teams, WebEx, Zoom, FaceTime naturellement, mais avec ce que nous, on utilise pour enregistrer l'émission, eh ben, ce n'est pas encore compatible. Donc, je n'ai pas accès à ces...
Ça va l'être.
Oh bah je suppose en plus qu'on utilise nous comme logiciel, c'est quelque chose de qui a pignon sur rue, donc ce serait étonnant qu'ils mettent pas ça à profit aussi.
Bah oui. Gilles, voilà. ces petites réactions gestuelles qui animent les visioconf, est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est du gadget?
Non, parce que ils ont tiré toute la leçon de la pandémie et de la vague de télétravail. Y compris en classe, et Dieu sait si Apple est toujours à fond sur tout ce qui était tout ce qui est éducation et scolarité, c'est typiquement quelque chose qui est un plus, qui dit ah c'est cool ton truc, où est-ce que qu'est-ce que c'est, comment tu fais ça, et en fait je le fais avec mon Mac, c'est livré avec. Et du coup, ça fait partie des choses qui donnent envie, en fait. Et puis, je suis d'accord avec Fabrice, et ça va forcément être ouvert à ICAM et à d'autres applications. Et puis,
hein, ouais.
Ouais, ça ferait tellement plaisir à Thierry Boitreau.
Ça y est, on va y avoir droit à chaque fois.
Il insiste.
Alors, Fabrice, oui, il y a un point important, c'est qu'il y a, bon, il y a les gestes, mais il y a aussi la possibilité de faire du partage d'écran avec un écran incrusté, justement.
Alors oui, ça c'est c'est ce qu'il y a en plus sur le Mac en fait par rapport aux autres plateformes, c'est que donc on peut facilement partager son écran une fenêtre ou deux d'ailleurs ou plusieurs en plus, donc mais alors ça c'est réservé à l'utilisation via FaceTime me semble-t-il, parce que j'ai pas réussi à le faire marcher avec Zoom par exemple, et c'est là où après ça devient un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que reprenons du début, ces nouvelles fonctions sont gérées par le système et offertes au logiciel de visio qu'on utilise, mais Zoom ou Teams par exemple sont eux aussi capables de faire du partage d'écran. Donc, il y a un moment, il va falloir choisir quel biais on partage son écran. Donc, c'est là où c'est bien, mais ça peut complexifier un petit peu l'usage. C'est un petit peu dommage. Alors, je vais revenir sur le partage d'écran tout de suite, mais il y a aussi, on peut faire le flouter en arrière ou modifier un peu l'éclairage pour avoir ce qu'on appelle un éclairage studio. Ça, c'est géré par le système. C'est pas mal. Le floutage arrière,
nouveau,
par exemple,
ça.
Et en général. Ça c'est nouveau. C'est comme les réactions, c'est nouveau dans l'OS, géré dans l'OS. Le floutage arrière est plutôt mieux géré par Apple que par les autres. Il est très bien. Mais du coup, comme c'est une répétition de fonctions qui existent aussi dans d'autres applications, comme Zoom ou Teams. Donc
oui,
lequel
mais par
on choisit.
Ouais, mais par exemple, nous, dans le logiciel qu'on utilise, il n'y a pas de floutage arrière dans le soft. Donc si c'est possible au niveau de l'OS. C'est très bien.
Bah ouais. Et donc on peut partager ce que fait un peu mieux Apple, c'est que on peut partager son écran ou une fenêtre, mais aussi on peut incruster sa propre image par-dessus la fenêtre qu'on partage, par exemple pour faire un mode de présentation, ou on peut garder son portrait, son image à soi, et mettre le partage d'une fenêtre au-dessus de son épaule comme à la télé. Donc ça c'est géré directement par l'OS et c'est bien fait. Alors justement, et pour revenir sur la compatibilité, il faut noter que ça ce sont des fonctions qui ne sont disponibles que pour les Mac à processeur M1 ou M2 ou plus.
Ouais.
Les Mac à processeur Intel, ils n'auront pas ça. Voilà.
Ça demande un
donc
peu de
c'est
puissance.
Là où, voilà, ils ont besoin de puissance, et puis je pense que ça fait partie des choses que c'était un peu comme, enfin Apple n'a pas forcément envie de tout développer pour les processeurs Intel, et on est là en plein dedans, ça demande de la puissance, ça ferait sûrement beaucoup souffler les ventilos, et puis il y avait presque eu ça avec la fonction texte en direct qui était apparue avec macOS 13 et iOS 15, où au début, c'était que pour les processeurs M, et puis ça avait un petit peu grogné pendant les phases bêta, alors ils l'ont sorti pour les processeurs Intel, mais ça, ouais. Je pense que c'est fini, ça. Les fonctions les plus importantes, qui demandent le plus de puissance, etc., ne seront plus disponibles pour les processeurs Intel. C'est la marche vers le cercueil pour les processeurs Intel, c'est sûr.
Bien sûr.
C'est à cause de l'intelligence artificielle. C'est géré par l'intelligence artificielle, donc
tout à fait,
les puces M font ça extrêmement bien. C'est beaucoup plus facile à gérer, à adresser ces fonctions-là vers ces cœurs logiques bien particuliers. Et du coup, pourquoi essayer de réinventer la roue et la mayonnaise en bricolant un truc qui, de toute façon, sera moins satisfaisant.
C'est sûr. Oui, il y a une logique quand même. De puissance et de capacité technique, tout simplement. Fabrice, on passe à deux nouveautés dans Sonoma toujours, donc qui concernent les photos.
Les photos avec la reconnaissance des animaux de compagnie, chiens et chats, en plus la reconnaissance des visages.
Donc ils ont leur propre album, c'est ça que tu veux dire?
Ils ont leur propre album, voilà. Et puis ensuite, on peut donner un nom à ces animaux, comme ça on peut retrouver ça facilement. Donc si vous allez voir l'article que j'ai commis sur comment ça marche, vous verrez les photos d'un de mes chats en illustration.
Comment s'appelle-t-il l'animal?
Elle s'appelle Minuit.
Ah.
Parce qu'on trouvait qu'elle avait l'aspect d'un ciel étoilé.
Voilà. Trop mignon.
Et donc, la reconnaissance des visages, ça existe depuis longtemps sur Mac. La première version de ça dans Photo, il y a quelques années, c'était pas terrible. Aujourd'hui, c'est vraiment très bien, y compris, moi je suis assez étonné de la qualité de la reconnaissance. Deux choses, moi, qui m'épatent, c'est la reconnaissance du même visage, mais d'un enfant au cours des années, qui pourtant change beaucoup, et ça reconnaît très bien le visage. Et puis, de plus en plus, même s'il y a des visages qui ne sont pas pris face caméra, la photo va se débrouiller quand même pour reconnaître la bonne personne. C'est vraiment très fort. Je trouve que là, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré ces dernières années.
Ouais, pas étonnant avec la puissance embarquée dans les nouveaux processeurs. Une fonction impressionnante d'ailleurs, toujours, hein, qui fait appel à cette puissance, c'est quelque part l'indexation automatique des vidéos et du contenu des vidéos.
Oui, alors j'évoquais le texte en direct tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnaissance du texte à l'intérieur d'une image. Ça avait été l'année dernière un truc génial qui existe donc toujours, qui permet, on prend une photo, il y a un numéro de téléphone dedans, on peut taper sur le numéro de téléphone et ça va lancer l'appel. Ça, c'est quand même assez génial. Et ça fait la même chose avec les vidéos maintenant. Donc on peut lancer une recherche textuelle dans l'application photo, et si le texte apparaît dans une vidéo, ça va trouver la vidéo et vous mettre à l'endroit de la vidéo dans lequel le texte apparaît. Ça aussi, c'est très fort, effectivement.
Ouais. Gilles, un petit sentiment sur ces fonctions photo. Tu es sensible à tout ce qui est photo, images, etc.
Oui, alors effectivement, ça serait super utile dans l'indexation automatique des photos des gros fainéants comme moi qui ne font pas les choses au fur et à mesure et qui se retrouvent, quand ils en ont besoin, à devoir écoper un bateau qui a pris l'eau. J'ai un petit peu de la... Très bien pour les mots-clés l'indexation automatique. La reconnaissance des visages, j'ai un petit peu plus de mal parce que on est certes chez Apple et c'est bien bordé, on est dans un environnement le plus sécurisé possible, mais il n'empêche, il y a toujours un risque. Il y a toujours le risque de la fausse manip. Ou pour faire plaisir à Thierry Breton, on peut autoriser les applications à aller faire fouiller dans votre bibliothèque de ceci ou de cela, et on ne sait pas trop ce qu'ils vont s'autoriser à regarder et à collecter surtout. Pour la reconnaissance des animaux, vous allez avoir droit au nez de clown systématiquement, mais je ne sais pas si ça fonctionne avec Kiki, la punaise de lit, quoi. C'est J'ai du mal avec ce truc de la reconnaissance des animaux et de la, le fétichisme des, l'affection qu'on peut avoir pour un animal. Je connais ça très très bien et je le partage, mais y a, des fois sur les réseaux sociaux, c'est quand même un peu difficile et il y a.
Alors, chers auditeurs, pour les commentaires, vous écrivez directement à Gilles, hein, s'il vous plaît.
C'est ça. C'est ça.
Je sais pas si on veut pas.
40 millions d'amis, vous écrivez directement à Gilles. S'il
non,
vous
plaît. C'est pas. Je viens de dire que l'affection aux animaux, j'étais à fond là-dedans, mais
oui.
C'est le fétichisme qui a un effet sur les réseaux sociaux. Avec ça, j'ai beaucoup de mal. Voilà.
Bah, désabonne-toi, c'est plus simple.
Exactement.
Oui, les petits chats, il y en a partout.
C'est vrai. Bon, et on est presque au bout des nouveautés de Sonoma, Fabrice. Les PDF, quoi de neuf ?
PDF, deux petites choses. J'avoue que je n'ai pas encore vraiment testé ça, mais il y a la reconnaissance automatique des champs à remplir dans des PDF, comme un formulaire sur une page web où du coup le Mac va proposer de remplir avec votre nom, votre fiche contact en tout cas, si c'est ça qui est demandé dans les zones à saisir, de saisie. Ça paraît tout bête, mais en même temps. C'est pas anodin parce que sur un formulaire dans une page web, en fait, dans le code HTML de la page web, il y a marqué que le champ il correspond au nom et un autre champ au prénom, par exemple. Quand c'est dans un PDF, pas forcément, il y a une zone à remplir, mais il faut comprendre qu'il y a marqué le mot nom au-dessus et le mot prénom au-dessus du champ d'à côté. Donc c'est là qu'il y a de nouveau des besoins de reconnaissance et de machine learning pour faire ça dans
Bien
un
sûr.
PDF. C'est pour ça que ça n'arrive que maintenant, j'imagine, dans les PDF. Après les pages web. Pour les PDF toujours, il y a aussi, on peut annoter, alors on peut déjà annoter en fait, on peut ouvrir un fichier PDF et puis prendre des notes dedans. Alors les notes manuscrites, c'est plutôt quand on a un iPad avec un stylet. Mais enfin, on peut aussi prendre des petites notes un peu à la comme en créant des post-it dans un PDF. On peut le faire aussi maintenant directement dans le PDF qui est lui-même intégré à une note dans l'application Notes. C'est un progrès parce que du coup on n'a pas besoin de sortir le PDF pour prendre des notes dedans, c'est très bien.
Bien sûr, ouais. On termine, Fabrice, avec notes et davantage de souplesse.
Alors, ouais, c'est un truc. Alors, petite mention spéciale à notre camarade Rodolphe Gervais, qui parce que je vais faire la même remarque cette semaine que la semaine dernière. Donc, la nouveauté de l'application Notes, notamment, c'est qu'on peut créer des liens entre les notes et donc faire des comme créer des sortes de wiki au sein de l'application Notes. C'est quand même super pratique. Donc, on a l'impression de réinventer Hypercard pour ceux qui se rappellent. Et j'avais dit à ce moment-là que c'est une des fonctions que proposent des logiciels comme Notes, Obsidian et autres, et qui donc du coup se retrouvent un petit peu déshabillés parce que Apple ajoute des fonctions à ses applications de base. Alors Rodolphe me faisait remarquer que j'allais m'attirer les foudres des utilisateurs de Notion et Obsidian. Bah, j'espère que non, parce que je leur veux pas de mal. Je fais juste remarquer que pour le commun des mortels qui utilisent son Mac, et ben voilà, il y a des fonctions supplémentaires qui font qu'on a moins besoin d'aller chercher ailleurs pour se contenter. C'est quand même la marche des technologies, me semble-t-il.
D'accord. Donc, cette nouveauté, c'est la possibilité de faire des liens.
Voilà, des liens entre les notes. Voilà. Ouais, on pouvait déjà créer des hashtags, des mots-clés pour faire des recherches faciles, pour faciliter les recherches, en tout cas, dans ces notes. Et maintenant, on peut faire des presque comme une base de données. Alors, c'est pour illustrer, je vais un peu loin. Mais voilà, on crée une note et puis on fait un lien vers une autre, etc. Donc, on peut se balader d'une note à l'autre facilement comme ça.
Bon, et puis on termine en parlant de jeux.
Oui, alors, je pense que je ne vais pas faire grand-chose parce que je ne suis pas un très grand joueur, mais c'est une des choses qu'avait montré Apple pendant la présentation de Sonoma, c'est qu'on sait que le Mac n'est quand même pas une grande machine de jeu, en tout cas pour ce qui est des jeux qu'on appelle AAA, Call of Duty et autres choses. Je m'empresse de demander pardon. Je connais même pas le nom des jeux tellement moi je ne joue pas, pardon. Hein. Mais donc ce sont des jeux qui demandent beaucoup de ressources. C'est pour ça que les joueurs les plus invétérés, ceux les plus passionnés, vont soit avoir une console de jeu dédiée, que ce soit Xbox ou PlayStation, ou alors vont se monter un PC avec une carte GeForce 4060 ou je sais même plus le nom du truc. Rien que la carte graphique va coûter plusieurs centaines d'euros pour obtenir un jeu qui va aller en 90 images par seconde ou plus dans la plus forte résolution. Et sur Mac, c'est pas facile à faire. Alors du coup, pour essayer de compenser ça, puisque la carte graphique, même les performances GPU d'un processeur M sont très bonnes, mais enfin sont loin d'atteindre celles que peuvent atteindre les cartes graphiques Nvidia notamment. Alors il y a un mode qui fait que si on joue, tout le reste sur Mac est mis un petit peu sur le côté, va ralentir pour essayer de donner le maximum de la puissance disponible au jeu qui tourne. Voilà. Ouais. Alors c'est très bien, mais j'ai l'impression moi que c'est un peu une cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire que on sait qu'on n'est pas assez puissant, donc on va essayer de tirer le maximum de ce qu'on a, sachant que ce sera quand même pas tout à fait suffisant, quoi. Et en plus, ce mode jeu ne se déclenche pas à la main. Il faut que le programmeur du jeu l'utilise. Donc, il faut déjà qu'il y ait des gens qui développent des jeux sur Mac. Il n'y en a quand même pas beaucoup, même si on a l'impression qu'Apple fait un peu pression sur le sujet. Et qu'une fois que le jeu est développé pour Mac, il faut en plus qu'ils ajoutent une fonction spécifique au Mac pour déclencher ce mode spécial. Je ne pense pas que c'est un grand succès.
Ouais, bon. Gilles, j'imagine que la fonction jeu, ça ne va pas être la nouveauté sur laquelle tu vas te précipiter quand tu installeras Sonoma.
Non, parce qu'il y a peu de jeux, Fabrice l'a dit. Et puis... c'est un peu le truc de réinventer justement le fil à couper de beurre, puisque quand tu as besoin de... Quand moi, il m'arrive de jouer avec un truc un peu gourmand comme Civilization 5, par exemple, j'avoue, c'est vieux, mais ça prend beaucoup de ressources, et je quitte les autres applications, tout simplement. Donc... ouais. Je d'autant que j'ai la possibilité de les retrouver dans l'état où je les ai laissés. Donc c'est un peu un truc de feignant, quoi. Enfin, pour les feignants. Bon, c'est pas une killer feature pour parler anglais.
Je m'en doutais un peu. Fabrice, ton sentiment général sur donc ce nouveau macOS 14 Sonoma? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est une mise à jour que tu conseilles? Est-ce qu'elle change un peu la vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est plus modéré que ça comme enthousiasme?
Moi, j'ai adopté tout de suite les profils dans Safari. J'utilisais beaucoup un autre navigateur pour les profils, donc j'avais adopté Brave pour faire ça, que je ne lance quasiment plus jamais. Parce que j'ai recréé mes profils indépendants dans Safari. Donc moi, ça me change tout. Pour ce qui est de la mise à jour, je voudrais remettre quelques grains d'élis dans mon discours malgré tout, notamment parce que même si c'est donc la première version finale de Sonoma, justement, j'ai eu 2-3 plantages de Safari. Pas grave. Ça redémarre et je reprends où j'en étais. Je me dis que... si les profils, on pense qu'on ne va pas s'en servir, et sachant qu'en plus, ils vont être disponibles dans Ventura, ouais. On peut peut-être attendre un petit peu. Les fameuses mises à jour macOS 14.01 ou etc. qui ne vont pas tarder à arriver. Coucou Eli. Mmh. Et voilà. Moi, ça m'a changé la vie. Je me dis aussi quand même que la gestion des mots de passe avec les groupes de partage, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la question. Et ça, c'est un très gros morceau aussi. Ouais. Les gens, globalement, n'utilisent pas suffisamment un gestionnaire de mots de passe. Quand on est sur Mac sur iPhone, iPad, ça facilite vraiment. Il y a un truc qui m'épate... souvent, c'est je vois des gens qui sont sur Mac, ils ont donc Safari, et puis ils installent Chrome, parce que par défaut, les gens installent Chrome. Voilà. Alors, ça me sidère, ça m'agace un peu, parce que je vois pas en quoi c'est mieux, et puis Chrome, c'est Google qui vous écoute, quoi. Donc, Grâce au profil, la gestion des mots de passe, je pense que moi j'ai de nouveaux arguments pour démontrer aux gens que Safari c'est très bien, qu'ils peuvent l'utiliser, qu'en plus ils ont souvent un iPhone à côté et que ça marche bien ensemble. Et là, ça devient vraiment quelque chose de très complet. Donc voilà ce que je peux dire.
Ok, donc si j'ai bien compris, c'est tu conseilles de passer à Sonoma, mais plutôt à partir de la prochaine petite mise à jour qui ne devrait pas tarder.
Peut-être, parce que j'ai un petit sentiment d'un petit manque de stabilité petit hein, dans Safari par exemple. Donc autant attendre que ça se soit corrigé et après allez-y, parce que le reste, c'est les améliorations sont quand même nombreuses. Ça se voit pas au niveau graphique, mais vraiment Safari c'est vraiment très très bon quoi. Donc faudrait pas se priver de ça.
Bon, merci beaucoup Fabrice pour ce tour d'horizon très complet de macOS 14 Sonoma. Je renvoie bien sûr à ton dossier sur comment ça marche.net. Tu es d'ailleurs revenu sur tous les OS sortis la semaine dernière. Donc si vous avez un peu de retard et si vous voulez de la lecture en plus de la réécoute d'iWeek la semaine Apple de la semaine dernière, ne vous privez pas. Dans un instant, l'iPhone 15, toute la gamme, les 5 premiers jours avec les retours qu'on a glanés un peu partout à travers le monde. Et puis, ce rappel, si comme nous, l'actu Apple et l'actu de l'écosystème vous passionnent, je suis sûr que vous en prendrez bien 5 à 10 minutes par jour dans les oreilles. Bah, c'est justement ce qu'on vous propose gratuitement avec la quotidienne iWeek, l'autre podcast de la team iWeek. Alors abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek, c'est sur toutes les grandes plateformes de podcast.